soleil de sang. À Belle Abbey, les quatre horloges sont arrêtées. Automne 61. Après une série d'actions violentes contre les barbouzes, au fur et à mesure qu'il sombre dans sa folie meurtrière, Gérard est obligé de quitter Belle Abbey. Avec ses légionnaires perdus, il parvient à rejoindre Oran, puis Buisseville, après une course-poursuite de 100 km en camion, parsemée d'embûches et de morts. Une traversée tumultueuse en mer, vers Almeria, poursuivie par la marine française, et enfin l'arrivée en Espagne. Là, Gérard et son dernier légionnaire vivant vont préparer un sombre projet contre le président. Un roman d'aventure où l'on voit jusqu'où un homme élevé dans l'honnêteté et l'honneur d'une famille peut aller lorsqu'il est plongé dans la névrose révolutionnaire. Une œuvre qui décrit bien l'évolution psychique de l'individu sous la pression d'événements où la violence et la mort sont omniprésentes. Gérard de Saint-Amance. Né à Oran, l'auteur a vécu 25 ans à SBA. En choisissant de partir vivre au Canada, en 1962, il a voulu effacer de sa mémoire les événements tragiques qui marquèrent sa jeunesse comme ils marquèrent la vie de tous ceux qui furent plongés, malgré eux, dans la tragédie d'une guerre fratricide, où les amis d'hier deviennent des ennemis implacables. Mais depuis son arrivée en Catalogne, installé à Perpignan, il a voulu relire l'histoire d'un homme qui n'était pas préparé à l'histoire. ISBN 978-2-953-1302-18 prix, 16,50 euros. Editions de Saint-Amance Collection Aventure. Soleil de 103. Chapitre 1. Il y avait un figuier au fond du jardin. Juste à côté du tas de fumier. Gérard aimait cet endroit. Son grand-père avait planté l'arbre fruitier comme un symbole, dès son arrivée dans ce pays il y avait près d'un siècle. Il était si beau et avait grandi tout seul avec ses immenses branches presque horizontales, chargées de larges feuilles, épaisses et odorantes qui s'étendaient majestueusement en projetant sur le sol une ombre fraîche et apaisante. L'arbre géant était plein de fruits que plus personne ne ramassait. Les figues pourrissaient lentement puis tombaient sur le sol. Allongé sur une grosse branche, au cœur de son vert refuge, baigné d'ombre et de fraîcheur, Gérard venait souvent rêver dans ce havre de paix, à l'heure de la sieste, quand toute la ville écrasée par la chaleur s'assoupissait et que tout était silencieux. Soleil de 104. Les chiens n'aboyaient plus. Les oiseaux faisaient la sieste. Près de lui, sur une figue bien mûre, une grosse mouche procédait méticuleusement à sa toilette, après avoir déjeuné sur le fumier tout proche. Enivré dans la bulle d'oxygène naturelle qu'était le végétal, Gérard en avait fait sa demeure affective. Il aimait ces moments où rien ne se passait. Il était en sécurité. Il n'entendait rien, même pas les grillons, car il faisait partie de son silence depuis toujours. Il les enviait souvent, immortels dans leur vie si brève et anonyme, ces grillons qui seraient toujours là et que personne ne songerait à chasser. Il chercha de l'oreille, machinalement, à percevoir les bruits du poulailler. Il avait remarqué depuis longtemps que même quand elles dorment, les poules s'agitent de temps à autre. Mais il sortit de sa méditation et se rappela que le poulailler était vide depuis le départ de ses parents. Il revit le temps où il avait aidé son père à construire le poulailler et le clapier. C'était au printemps. On venait d'emménager dans la villa toute neuve, un peu après la guerre. La guerre, ce mot qu'il avait toujours entendu et qui lui servait d'excuse pour continuer à vivre. Mais les conflits ne recommencent jamais tout de suite. Heureusement, il faut un peu de paix pour les préparer. Alors son père avait fait construire leur maison. Pour rien bien. Soleil de 105. Sûr, mais les hommes sont comme ça. Ils vivent au ralenti. Ils pédalent tellement lentement que les événements les dépassent toujours. Ils construisent une maison, un poulailler, un clapier et s'en vont. Tout à coup, Gérard sourit en revoyant la maison des lapins, comme il l'appelait quand il était tout jeune, le jour où son père s'était aperçu qu'il avait monté les portes du clapier à l'envers. Pris de fou rire, il se retenait devant la colère du vieux qui s'insultait dans les trois langues du pays. Paralysé par sa mélancolie, il vit sur une branche un petit lézard qui le regardait fixement. Il l'observa sans bouger. L'immobilité parfaite du petit reptile le fascinait. Depuis toujours, il s'entraînait à imiter cette créature. Il aimait surtout la vivacité de ses mouvements, tellement rapides qu'on ne pouvait pas les percevoir. Une petite route très calme recouverte de gravier longeait la clôture du jardin. Soudain, il entendit un crissement. Malgré la chaleur, un homme passait sur son vélo. L'homme pédalait prudemment, assez lentement pour ne pas se fatiguer, mais assez vite pour ne pas tomber. Il donnait l'impression de dormir sur son vélo. Bien couvert pour se protéger du soleil, il ne transpirait pas. Gérard, le regardant passer, scruta le visage. Soleil de 106. Hermétique et se demanda à quoi il pouvait bien penser. Arrivé au bout du chemin, faisant glisser sa roue en freinant sur les petits cailloux, le musulman ralentit, tourna, prit un sentier verdoyant et disparut. Tout redevint serein. Gérard reprit sa rêverie. Le lézard avait disparu, la grosse mouche prenait son dessert sur une figue pourrie et les grillons égrenaient inlassablement leur litanie. Le jeune homme rajusta ses lunettes. Son regard se posa sur la maison, en partie masquée par un grand hangar où un vieux camion semblait abandonné. Tout semblait abandonné d'ailleurs. Tout était abandonné. Le grand jardin, que son père avait créé de toutes pièces, avait encore sa géométrie impeccable, avec ses carrés, ses orangers, sa vigne et le chemin caillouteux qui le séparait en deux. Comme dans un songe, à moitié assoupi, Gérard chercha des yeux Boilem. Mais le jardinier n'y était plus. Les souvenirs lui revenaient et il le revoyait dans un carré qu'il avait entrepris de bêcher. Et le colon sourit en pensant au coup de bêche de Boilem, accompli selon un rituel immuable, dosant son effort de telle façon que pas une goutte de sueur ne perlait de son visage buriné autant que décharné. Il le revoyait crachant d'abord dans ses mains qu'il frottait l'une contre l'autre lentement, puis... Soleil de 107. Saisissant ensuite le manche de la bêche, il la levait majestueusement avant de l'abattre violemment dans le sol. Il donnait ainsi une dizaine de coups avec l'outil ancestral puis s'arrêtait et le posait. Boilem sortait alors son papier et roulait une sorte de gros mégot qui ressemblait de très loin à une cigarette. Après avoir réajusté son taux de nicotine, il jetait le mégot baveux et reprenait sa bêche. Et il pouvait travailler ainsi toute la journée tranquillement, sans fatigue apparente. Les yeux fermés pour ne plus voir le présent et mieux contempler son passé, Gérard sentait monter en lui une écrasante tristesse. Il n'était pas allé à la plage cette année. Pour la première fois depuis toujours. Cela n'était plus possible. La Révolution, cette prostituée de l'histoire, s'était abattue sur le pays. Les jours heureux avaient trop duré et chaque soir, le soleil rouge se couchait dans le sang. Patiemment, les vautours et les chacals politiques attendaient leur tour pour se repaître des restes de la charogne coloniale. Il tendit la main pour cueillir une des baies émeraude bien mûre qui foisonnait dans les branchages, l'ouvrit en deux et mordit dans la chair vermeille. Ainsi, c'en était fini des longues journées au bord de l'eau, du clapotis très doux des vagues d'eau claire qui venaient mourir sur le sable blanc, et... Soleil de 108. Déposant parfois un petit crabe avec lequel les enfants jouaient cruellement. Fini les longs séjours dans l'eau tiède d'où ils n'avaient pas envie de sortir, où l'on se laissait bercer par des vaguelettes ondulantes en faisant la planche. Fini les retours joyeux le soir venu, ivre de soleil et de sel, la douche fraîche qui coulait dans la cour sous l'épaisse tonnelle de vigne vierge. Fini la grande table familiale qu'on y dressait, pressé de dévorer des tonnes de côtelettes de mouton à l'odeur et au goût si fort, en buvant de longues gorgées glacées de ce rosé d'Afrique, source d'extase et d'ivresse sereine. Fini les longues soirées baignées par la fraîcheur de la nuit, où parler n'était même plus nécessaire, les membres alourdis par la fatigue et le vin, l'esprit vide d'angoisse et d'envie, en prolongeant sa béatitude en fumant une bastos. Il fut tiré de sa rêverie par un bruit de pas sur le chemin ainsi que des chuchotements. Immobile comme le lézard qui avait disparu, caché dans l'épais feuillage du figuier, il observa les trois enfants qui escaladaient le grillage de clôture et, se glissant entre les rangées, se dirigeaient vers le carré de pastèque. Ils s'emparèrent de la plus mûre, puis allèrent s'accroupir au pied du figuier. Le plus grand sortit un vieux canif, l'essuya sommairement sur sa djellaba et découpa des tranches dans la masse ronde surchauffée par le soleil. Soleil de 109. Le festin terminé, l'un d'eux se leva, fit quelques mètres et, remontant rapidement son vêtement ancestral, déposa près du mur le fruit d'une alimentation désordonnée. Le plus jeune rota soigneusement en remerciant Allah, puis les gosses répartirent, non sans emporter chacun un melon sous le bras. Gérard les connaissait. Ils avaient l'habitude de venir voler des fruits. On les laissait se livrer à ces jeux d'enfants sans gravité, tolérance intelligente qui avait permis aux colons de vivre en bonne harmonie avec les autochtones. Gérard se demanda s'il n'aurait pas mieux fait de leur dire de ramasser tous les fruits qui pourrissaient inexorablement sur les branches. De toute façon, plus personne ne les cueillerait. Mais il se dit que les enfants n'auraient sûrement pas compris. Et puis, après tout, il n'y aurait plus d'autres récoltes après celle-ci, alors il préféra ne pas les priver de leurs joies éphémères, car bientôt ce jardin serait le leur et ils ne pourraient plus voler des pastèques. Et l'homme sourit en pensant qu'un jour, ses enfants insouciants et désinvoltes deviendraient des hommes, ils auraient à cultiver son jardin et seraient volés à leur tour. Il devait être 16 heures. Le chemin caillouteux s'animait, quelques voitures passaient, la ville allait sortir de sa torpeur. Gérard descendit de son refuge ombragé et frais. Il cligna des yeux en ce soleil de 110. Retrouvant plongé dans la fournaise ambiante et marcha lentement vers la maison sur le chemin de traverse. Le jeune homme n'était pas très grand, la silhouette frêle et les traits fins. Des lunettes d'or donnaient à ce petit homme un air fragile et intelligent. L'air qu'ont ces êtres, auxquels on n'a pas envie de faire du mal. Et dont on ne se méfie pas. Il ne s'était jamais battu à l'école. On ne frappe pas quelqu'un qui porte des lunettes. Sa façon de regarder les gens les désarmait et lui donnait un charme étrange. Peu habitué à sourire, il fixait de ses yeux noirs les gens qui lui parlaient, sans rien dire, sans les interrompre. Il était toujours d'accord avec eux. S'arrêtant au milieu du chemin qui coupait le jardin en deux parties, il resta immobile, les yeux fixés sur la villa. C'était une grande bâtisse de 15 pièces, massive, construite pour toujours, toujours, ce mot qu'il avait si souvent entendu de la bouche de son père, toujours, un mot qui maintenant ne voulait plus rien dire. La façade où grimpait la vigne vierge, le toit en terrasse bordée de briques rondes donnait à la maison un aspect majestueux solide, éternel. C'était le château de son enfance. Sortant de sa réflexion, il se remit à marcher et s'arrêta devant le grand hangar. Un vieux camion. Soleil de 111. Ben s'y trouvait, imposant et poussiéreux, au milieu de vieux cartons et d'un tas de papiers et de livres. Il s'approcha, prit un livre au hasard. C'était son livre d'histoire de sixième. Il tomba sur une phrase qui le fit sourire, « Nos ancêtres, les Gaulois ». Et il se souvint de son voisin de classe, son copain Beniamina, lorsque le professeur lui avait demandé de résumer ce chapitre. À cette époque, tous les Beniamina découvraient que les Gaulois étaient leurs ancêtres. Il est vrai que l'histoire des colonies s'imprimait à Paris. Ils n'habitaient plus la maison familiale. Trop grande, trop vide, trop pleine de meubles abandonnés et de souvenirs heureux, comme le sont tous les souvenirs d'une enfance comblée. Il était 17 heures. Gérard sortit de la maison dans sa Dauphine Gordini. Il faisait très chaud. La voiture démarra lentement. C'était son heure préférée, quand le soir arrivait, que le soleil fatigué se préparait à regagner son lit d'horizon, et que la ville s'animait. Soleil de 112. Chapitre 2. Le colon roulait paresseusement, vitres ouvertes, le bras gauche pendant le long de la portière pour sentir la caresse de l'air. Il passa devant le collège des filles où il enseignait les sciences naturelles. Le moteur gonflé de la Gordini ronronnait. Il était préférable de rouler lentement depuis que les patrouilles avaient envahi la ville, toujours sur le qui-vive et inquiète quand elles voyaient une voiture arriver trop vite. Sur le trottoir de gauche, des légionnaires en armes marchaient le long du mess des officiers. Majestueux, sûrs d'eux-mêmes, les hommes de Cameron en tenue léopard, pistolets mitrailleurs au poing, croisèrent la Dauphine sans la regarder. Ils se déplaçaient lentement, regardant loin devant eux, leurs visages d'étrangers venus du nord aussi uniformes que leur tenue. Les soleils de 113 képi blancs avaient toujours fait partie de son paysage affectif. Mercenaires du hasard et soldats de l'honneur, ces hommes au passé involontaire étaient venus réapprendre les règles de la vie et de la mort sous ce drapeau dont la dernière couleur était celle de leur sang. L'enfance de Gérard avait été scandée par les chants au rythme lent que les hommes à la voix grave et aux accents étrangers chantaient chaque matin, très tôt, en passant devant la maison, marchant de leurs pas célèbres, lents et bien scandés, le regard fixé sur l'horizon. Ces guerriers sans état d'âme, tête d'affiche de toutes les guerres inutiles, guerres de l'absurde colonial, venaient se reposer dans la ville entre deux combats. Puis un jour, ils quittaient la Légion, las de tuer pour rien, et s'installaient dans une vie civile qu'ils ne connaissaient plus. Arrivé au carrefour des quatre horloges, la Dauphine tourna à droite et prit l'avenue Prudhon, une artère très large bordée de palmiers centenaires. La voiture ralentit encore et Gérard roula ainsi jusqu'à l'église, qui marquait la fin du boulevard. Il fit le tour de la place de l'église puis reprit le même chemin en sens inverse. Il arriva bientôt à hauteur d'une grande place, la place Carnot. C'était un square immense qui marquait le centre de cette ville construite selon le style colonial avec ses deux soleils de 114 grands boulevards principaux en croix. Un carrefour était tenu par un policier qui réglait la circulation du haut de son perchoir surmonté de quatre horloges, chacune dirigée vers un des points cardinaux. La ville tout entière, la ville européenne du moins, était construite au carré et le centre avait été conçu par les légionnaires du génie. Les sapeurs, eux-mêmes installés dans d'importantes casernes pas très loin de la place Carnot. Un grand kiosque à armature métallique se dressait au milieu de la place et de petits orchestres venaient y faire danser la population, en plein air. Pendant les fêtes de villages et les dimanches, chaque agglomération de la colonie organisait ainsi sa fête tout au long de l'interminable été. Ce lieu central était bordé des principaux commerces de la ville et d'un grand café dont la terrasse était le point de retrouvailles de tous les Européens de la ville. C'était assez magique. Dans cette ville hors du commun qui n'avait même pas un siècle, pas de passé, et dont le futur s'effritait, on ne se fixait jamais un rendez-vous, sachant très bien que tous les soirs vers 5 ou 6 heures, tous les jeunes viendraient « faire le boulevard », comme ils disaient.